je remets bras à zéro.
Il y a 8 mois, une collaboratrice de Bras Zéro était touchée par un événement loin d'être anecdotique. Dans une salle d'accouchement, entre deux contractions, elle recevait cette carte postale.
Chère petite, c'est les tontons et les tatas de Bras Zéro. Voilà, on va te dire pourquoi il faut que tu viennes vite.
Allez, viens.
Allez, dépêche-toi.
Hop, hop, hop.
Dix bonnes raisons de venir au monde.
Pour toi, l'enfant.
Eh ben, viens, comme ça, si on a besoin de bruitage de bébé pour la future émission bébé, tu seras là.
Tu découvriras Toulouse le samedi en gilet jaune.
Et puis tu pourras faire une heure et demie de route au soleil et écouter les bruits de la mer.
Tu vas pouvoir passer des heures à discuter en buvant du maté avec ta mère.
Et le monde s'écroule, du coup, il n'y a plus qu'à reconstruire, il y a tout à faire.
Tu découvriras la sororité et ça, tu verras, ça déchire.
Tu écouteras les magnifiques voix de Bras Zéro le lundi.
Puis on a besoin de monde pour foutre un gros coup de pied au cul de ce monde.
Tu vas pouvoir voir arriver l'aube après une nuit de fête avec des amis.
Et tu vas pouvoir faire partie du prochain putsch à Canal Sud.
Allez, viens, tu vas voir la tête de ta magnifique trop stylée maman.
Et tu verras le poulet fermier à 4,99€ le kilo chez Carrefour Market.
Allez, viens.
Voilà, à partir de là, tout s'est enchaîné. 2019 a vu une partie de l'équipe de Bras Zéro gonfler comme des ballons, disparaître quelque temps, puis revenir avec de très petits êtres maléfiques.
La condition de non-parents est en voie d'extinction à Bras Zéro.
C'est pourquoi il était impossible de commencer la saison sans nous plonger sur cette drôle d'affaire.
Nous avons parlé procréation,
grossesse,
famille,
patrie,
ah non,
enfant,
avortement,
sperme,
gamètes,
horloge biologique,
PMA, etc.
À tel point qu'il n'y aura pas un Bras Zéro bébé, mais deux, voire trois.
Dans ce volume 1, vous entendrez des auto-entretiens de l'équipe,
une histoire de paillettes et d'ovocytes,
le témoignage d'un donneur de sperme,
et d'autres histoires de procréation voulue
ou non.
Il reste bien sûr d'autres polichinelles dans le tiroir.
Comme le faire famille,
la loi PMA et ses exclusions,
le désir et non-désir d'enfant,
l'IVG,
la grossesse,
l'accouchement.
Avec tout ça, il y a encore des thèmes que nous n'aborderons pas.
Comme la défaite de l'équipe de France de rugby et la candidature de Moudenc au municipal 2020. Désolée.
Sur ce, faites taire vos gosses, si vous en avez, montez le son
et bonne écoute.
Ce soir, c'est Bras Zéro bébé.
Non, pas Brigitte Bardot.
Non, Bras Zéro bébé.
Bah, Black Bloc.
Non, non, bébé.
Ah oui, Bed and Breakfast.
Non.
Beatbox.
Non, bébé, les mioches.
Ah, les gamins.
Les gamins, les allocs.
Chien.
Ok. Brasero bébé, quoi. Ah.
Je m'appelle Audrey, j'ai 33 ans. Ça fait plusieurs années que j'ai envie d'avoir des enfants. Donc je m'étais dit quand même que j'attendrais la personne idéale. Sauf que, au bout d'un moment, mon échéance, c'était de signer un CDI. Et les années ont passé, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis au bout de 4 ans, je me suis dit, l'échéance est passée, j'ai signé mon CDI. J'ai trouvé personne, je vais faire l'enfant seule. Et là, ça va faire une semaine demain.
Audrey, je la connais depuis 15 ans. Je connais son indépendance et sa détermination. Ce que vous allez entendre, c'est son témoignage brut. Audrey est revenue d'Espagne il y a 6 jours, et à l'heure où je finis le montage, elle ne sait toujours pas si elle est enceinte ou non.
La Cucaracha produit des ultrasons.
Donc, je me suis un petit peu renseignée. Alors, à la base, ça partait de ma sœur, qui avait trouvé justement un site sur Internet qui vendait on appelle ça des paillettes, c'est des dons de sperme, où on pouvait recevoir tout à domicile. Donc, je me suis dit, je vais me tenter là-dessus, je vais partir là-dessus. C'est un truc perso que je fais toute seule. Donc là, c'était vraiment le truc que je fais dans mon coin un petit peu. Donc, j'ai été voir sur ce site. Où là, on choisit les caractéristiques du donneur, on choisit si on veut le prendre anonyme ou non anonyme. Donc moi, j'avais décidé en non anonyme pour que l'enfant puisse se construire éventuellement s'il avait besoin de trouver, de retrouver ses racines ou de certaines racines qu'il aurait peut-être besoin pour se construire ou pas. Mais dans le doute, j'avais dit non anonyme pour lui. Donc du coup, j'ai commandé, j'ai reçu tout ça, sauf que quand on fait comme ça, en fait, il faut être bien prêt à gérer bien son ovulation, à bien calculer tout ça. Et comme l'ovulation, c'est toujours un peu aléatoire, à 1 ou 2 jours, quand on reçoit le colis, on peut le garder que 48 heures. Donc si dans les 48 heures, finalement, on ovule pas, c'est perdu, en fait. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est que moi, j'avais pas assez bien géré l'ovulation. J'étais peut-être un peu pressée d'avoir un enfant. Donc je me suis peut-être un peu précipitée, même si j'ai beaucoup réfléchi avant et que j'ai beaucoup calculé avant pour savoir quand il faudrait que j'essaye. Je pense que je me suis trop précipitée par rapport à l'ovulation. Donc la première fois, ça n'a pas marché, donc grosse déception. Alors ça m'a coûté 1 500 €. Et pour moi, je faisais ça parce que justement, c'était moins cher qu'en clinique. Parce que à Barcelone ou en Belgique, pour moi, c'était plus cher. Je m'étais même pas renseignée, mais pour moi, c'était plus cher. J'ai laissé passer quelques mois. Et dans ces quelques mois-là, j'ai discuté avec des gens à droite à gauche qui avaient soit une amie qui avait fait ça, soit une sœur, soit moi j'ai une collègue de travail qui a fait ça en Belgique. Donc où elle me racontait que donc en Belgique, il fallait renvoyer des questionnaires psy, qu'il fallait en France avoir une gynéco et un médecin qui étaient d'accord avec cette procédure parce que c'est pas légal quand il faut traduire après des ordonnances pour qu'elle puisse marcher dans les pharmacies françaises, il faut avoir un médecin qui est d'accord ou une gynéco qui est d'accord avec ça. Ils sont en droit de ne pas être d'accord, donc j'ai pris le nom de sa gynéco qui, elle, je savais, était d'accord. Donc elle m'a dit qu'elle avait commencé au mois d'août, et puis l'insémination a eu lieu au mois de mai. Donc ça lui a pris presque 1 an. Un an, pour moi, c'était énorme. Enfin, moi, j'avais vraiment hâte. C'était vraiment un désir depuis toujours. Et c'était ancré dans mes tripes. Et j'avais envie que ça se passe tout de suite, quoi. Après, s'il fallait passer par là, et je me suis dit que finalement, donc en discutant avec les gens, qu'en clinique, c'était quand même plus suivi, qu'il y avait plus de chances que ça marche, moins de tentatives à faire qu'en commandant sur Internet et en essayant, moi, toute seule. Enfin, voilà. Donc elle a fait ça en Belgique, sauf que moi je m'étais dit que je ferais ça en Espagne parce que je connaissais pas l'Espagne. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça en Espagne, à Barcelone, je connais pas, ce sera l'occasion de partir quelques jours en même temps et visiter. Après j'ai discuté avec la famille, avec ma sœur et tout ça, et ils m'ont suivi, donc je dis allez c'est parti. J'avais d'abord appelé la gynéco pour savoir si c'était d'accord. J'avais vu mon médecin traitant, elle était d'accord pour faire des arrêts maladie au cas où je dois partir du jour au lendemain, parce qu'on doit partir dans les 36 heures à 48 heures, donc il faut pour le travail pouvoir avoir un arrêt.
À aucun moment, je me suis sentie jugée. La gynéco a posé des questions, elle, pour savoir justement si j'étais bien entourée. C'est une des questions qui revient quand même régulièrement, si quand même je suis bien entourée. Et à partir du moment où il voit que oui, je suis bien entourée et que ouais, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais ce que je fais, qui sentent cette conviction et qui ressentent ce truc-là, ouais, non, après, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas, bah, ok, bah, on va t'aider, quoi. Donc après, j'ai pris rendez-vous, et la clinique est très réactive, et ça fait plaisir aussi, parce qu'on a l'impression qu'on est déjà importante pour eux. Enfin, qu'on est, même si on n'est que des numéros, hein, et on passe et on paye. Mais moi, j'ai pris rendez-vous sur Internet, on avait le choix de 3 dates. J'ai mis des dates et ils m'ont rappelé dès le lendemain pour me dire on peut nous de telle heure à cette date-là ou à cette date-là de telle heure à telle heure. Donc j'ai pris la date la plus tôt. Quand on appelle la clinique, il y a une espèce de répondeur qui demande quelle langue on parle. Donc si c'est l'italien, tapez 1, français, tapez 2, espagnol, tapez 3. Donc quand ils m'ont appelé pour prendre rendez-vous, ils m'ont renvoyé tous les papiers, tous les examens que je devais faire avant de venir. C'est des examens qu'on est obligé de les faire, mais c'est des examens qu'on peut faire sur place aussi. Si on n'arrive pas à les faire en France ou si on n'est pas dans les temps ou je sais pas quoi, on peut les réaliser là-bas. C'est un coût supplémentaire du coup de les faire quand même là-bas. Alors qu'ici on est quand même remboursé par la Sécu machin, donc c'est pour ça aussi que je voulais les faire ici. Je voulais avoir tous les papiers pour pas perdre de temps à refaire des examens là-bas et je voulais que tout soit fait avant. Donc les examens, bah là, la gynéco, je crois que j'en ai jamais vu une autant de ma vie parce que celle que j'avais avant, je la voyais pas très souvent, mais celle-là, je la voyais toutes les semaines à peu près. Du coup, bah, ils doivent faire des tas d'examens, voir si les ovules sont bien, s'il y en a déjà, si faire un examen aussi pour voir si les trompes sont étanches et si l'utérus est étanche aussi. Et puis, donc c'est assez douloureux, ça. Ça s'appelle l'hystérosalpingographie. Ça consiste à faire des radios des trompes pour bien voir si les trompes sont étanches. Et pour ça, donc c'est un espèce de d'examen gynéco, hein, toujours pareil, les jambes écartées sur la table. Et donc ils injectent un produit, et à chaque fois qu'ils injectent un petit peu de produit, ils prennent une radio, ils en réinjectent, ils reprennent une radio, etc., pour voir l'évolution du produit dans les trompes, voir si ça s'échappe pas, etc. J'avais eu peur parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'ai discuté, en particulier des collègues qui ont déjà fait ces tests-là, parce qu'elles ont du mal à avoir des enfants aussi, donc elles ont... Enfin aussi, différent, mais... Donc elles ont fait ce test aussi, et toutes, elles m'ont dit ouais que c'était douloureux, bah prépare-toi, ça fait mal, machin. Sauf qu'après, on est tellement toutes différentes que, oui, ça fait un peu mal, c'est un peu douloureux, mais vraiment, ça dure 2 secondes, et c'est quand même largement supportable. Enfin, moi, personnellement, je l'ai pas ressenti comme une douleur atroce, c'est... Bon, c'était ouais, des douleurs de règles qui font mal pendant 2 secondes, quoi. Après, il n'y a plus rien, quoi. Ça passe tout seul. Donc ouais plein d'examens, beaucoup de prises de sang à faire aussi pour tester toutes les maladies. Il faut refaire aussi une prise de sang pour savoir notre groupe sanguin pour le donneur, par rapport au mélange de sang, ça soit plus simple. J'ai réussi à faire tous les examens. Le dernier examen a eu lieu le jeudi et je partais le vendredi. D'ailleurs, c'est ce qu'ils m'ont dit là-bas quand je suis arrivée, apparemment, j'étais une des rares à avoir tout avant et tout était récent, donc il y avait rien besoin de refaire. Il me dit tout est parfait, donc du coup, on peut commencer direct. J'ai vu en premier, on a vu l'administration où elle prend tous les papiers, où il fallait, là où j'ai dû remplir un phénotype, savoir la couleur de mes yeux, de mes cheveux, enfin, voilà, des trucs physiques. Après, elle a pris tous mes résultats d'examen, etc. Et après, j'ai été voir un médecin. Et lui, le médecin m'a expliqué les pourcentages de réussite, comment ça allait se passer concrètement, le donneur, comment ils allaient faire. Donc effectivement, il m'avait demandé des photos. Je me demandais un peu pourquoi. Et en fait, c'est parce qu'ils font attention autant que possible que le donneur ressemble physiquement à la mère. Et voilà, le médecin, ça a été très rapide parce que il m'a juste donné des pistes sur comment allait se passer la suite. Et puis, au vu des résultats, donc il m'a dit, bah la prochaine fois, vous vous rappelez, et ça sera bon, quoi. Vous pouvez rappeler le mois prochain, et puis on peut commencer les médicaments avant que je dois prendre, parce que du coup, lui, il m'a donné une ordonnance. Et quand je suis revenue en France, donc il faut faire traduire cette ordonnance. Et après, il y a un traitement à commencer, alors ils appellent ça la stimulation, qu'il faut commencer 3 jours après ses règles. Donc la stimulation, c'est les piqûres qu'on se fait dans le ventre, donc tous les jours, c'est quotidien. Ça aide à faire grossir les follicules. Donc les follicules, c'est ce qui va être important par la suite, parce que c'est par rapport à la taille de la follicule qu'on dit, bah là, vous avez 36 heures maintenant pour venir vous faire inséminer. Et en parallèle à ces piqûres, on doit faire un suivi gynéco, donc avec des échopelviennes, où là, elles mesurent la taille des follicules, pour savoir où ça en est. Et le même jour que l'examen gynéco, il faut faire une prise de sang. Après, quand on a tous les résultats, il faut rappeler la clinique pour que eux nous disent où ça en est. Normalement, deux jours après, il faut refaire une échopelvienne et refaire une prise de sang. Et puis après, ben, selon la taille des follicules, à partir du moment où ça arrive vers 17 mm, que le follicule a un diamètre de 17 mm, là, on a 36 à 48 heures pour y aller. Et 36 heures avant l'insémination, il y a une autre injection à se faire. Donc ça, c'est de l'ovitrel. C'est pareil, c'est une piqûre dans le ventre qui favorise l'ovulation. J'ai fait l'ovitrel, donc l'injection d'ovitrel en Espagne. Donc ça, c'était le samedi soir. Et puis ben, le lundi matin, on y retourne pour l'insémination. Je dis on parce qu'on était toutes les trois en Espagne, mais ce jour-là, dans ma tête, je suis seule pour le faire, donc autant le faire seule du début à la fin. Même si je suis pas seule, je sais que je suis très accompagnée, très entourée par les amis, la famille, etc. En étant une femme seule, je suis assez, c'est assez rare. C'est ce qu'ils me disaient à la clinique. Il y a beaucoup de couples lesbiens, il y a beaucoup de femmes qui peuvent pas avoir d'enfants, et du coup, bah, c'est des dons d'ovocytes. Ça se fait pas en France non plus, donc elles partent là-bas. Il disait que les femmes seules, c'était plus rare quand même. C'était le pourcentage le moins élevé de leurs patients. Donc j'y suis allée seule, là. Et après, là, c'est très rapide. Hein. La gynéco, là-bas, nous prend en charge. L'insémination, ça dure à peu près 2 minutes 30. C'est très, très rapide. Après, on reste 10 minutes allongés, les genoux pliés, juste. Et puis après, voilà. Elle me dit, maintenant, vous pouvez vivre votre vie normalement. Et puis, il faut attendre 2 semaines. Et dans 2 semaines, il y a un premier test de grossesse à faire. On ne peut pas s'empêcher de penser à après, comment ça va se passer. Parce que moi, j'ai déjà, par exemple, mon frère qui m'a dit, de toute façon, pour l'accouchement, je serai là. Mais comme depuis le début, je me lance seule. Donc moi, l'accouchement, ça... À aucun moment, je me dis qu'il me faut quelqu'un à côté de moi à ce moment-là. Pour l'instant, je vis pas encore le truc concrètement, donc peut-être que dernier moment, je me dirais, mais non, je peux pas, là, il me faut quelqu'un, j'en sais rien, mais là, comme ça, aujourd'hui, en tout cas, je me vois très bien prendre ma voiture aux premières contractions, ou quand j'ai perdu les os, ou j'en sais rien, partir toute seule, faire mon truc toute seule, et après, appeler les gens, bah voilà, le bébé est là, venez, maintenant, vous pouvez venir. Vivre le truc seul, vraiment, ne me fait pas peur, et au contraire, je trouve que c'est... Enfin, peut-être pas au contraire, mais... je sais pas, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre aussi seule pour... Bah ouais, il y a que moi qui pourrais raconter comment ça s'est passé. Alors, je sais qu'à deux, c'est bien aussi, parce que justement, ça, on vit les choses ensemble. Mais moi, dès le départ, je suis seule, donc jusqu'au bout, j'ai envie de vivre ce truc seule et puis de pouvoir expliquer comment... Moi, j'ai fait, parce que moi, ça va être un peu un cas à part, parce que c'est pas traditionnel, c'est pas comme tout le monde... Mais je trouve ça chouette, justement. J'aime bien être un peu à part et pas comme tout le monde. C'est ça qui m'embête dans ce processus. C'est que moi, je paye pour faire ça et c'est... J'avais pensé à faire avec des amis ou un couple homo. Mais je me suis toujours posé la question du rôle du père, en fait, que je voulais et je veux. Je savais pas si je voulais qu'il ait une place ou pas. Je savais pas se poser la question aussi quand j'ai commandé au Danemark ou en Belgique, si ça se fait en Belgique, où j'aurais demandé un don non anonyme. Là, en Espagne, on nous pose pas la question. C'est anonyme et point barre. Donc finalement, je me suis dit, bah voilà, c'est anonyme. La question se pose pas, il y a pas de relation paternelle. Je me suis toujours demandé. Ça reste encore un peu une interrogation, à me demander si j'aurais pas pu faire avec un ami et puis qu'il y ait une figure paternelle quand même pas loin qui puisse être présente au cas où. Après, je me dis que c'est pas... la vie fera que ça se fera différemment et puis que ce rôle paternel, quelqu'un d'autre l'aura, mais peut-être son oncle ou peut-être un ami ou peut-être moi qui l'aurais aussi. Je serais son père et sa mère. Et moi, je vais essayer de lui faire comprendre ma démarche et qu'il la comprenne. Je pense qu'il la comprendra parce que il sera là et il sera heureux, hein, donc il comprendra. Il va falloir que je communique énormément quand même sur tout ça avec lui pour qu'il comprenne que la situation elle est pas comme tous les autres enfants et qu'elle est un peu différente, même si les autres enfants ils ont des situations chacune individuelles qui est différente aussi. J'ai écrit dans un cahier tout ce que je ressentais, ce que je vivais au jour le jour et pour qu'éventuellement l'enfant plus tard aussi puisse le relire et puis se rendre compte de ce que j'ai vécu pour l'avoir, de tout par où je suis passée pour l'avoir, etc. Ça peut être important. Brothers and lovers, come pour
some water on my gills. Mixcloud.com/lacucaracha. And bring me back around again. I know, you know, this isn't no yet. Fire and whisper. Come find me hidden in the hills. I'll tell you what it means to me.
Maman.
Mais non, elle a dit Brasero.
Oh.
Et toi, est-ce que tu sais comment on fait les bébés?
Est-ce qu'on fait les bébés? Moi, j'ai gardé un bébé. Que j'ai gardé. On a décidé à deux qu'on gardait un enfant. Mais du coup, comment est-ce qu'on a fait cet enfant? Ça serait compliqué d'expliquer comment est-ce qu'on a pris la décision à un moment d'avoir un enfant, de le faire, machin, etc. Et je suis pas sûr qu'on puisse résumer à la biologie le truc de faire un enfant.
Alors, moi, ce que je voudrais dire à propos de ça, c'est que je pense que je vois à peu près biologiquement, mais je crois que je vois beaucoup moins que des gens qui se sont posés la question et qui ont galéré à faire des enfants. Quand tu dois tout calculer, par exemple en tant que meuf, si tu dois tout calculer, ton cycle, savoir exactement quand est-ce que tu vas aller faire une insémination ou quoi, ou quand est-ce que tu vas faire l'amour avec le gars ou je sais pas quoi, et ben je pense que tu connais vachement mieux comment on fait les bébés que quand t'y penses pas trop et que tu vois quand ça arrive, quoi.
Et ben je sais comment faire. En fait, ils arrivent par une cigogne préalablement commandée au Maroc pendant l'hiver ici, voilà, parce qu'elle fuit l'hiver européen pour aller au Maghreb et en Afrique. Et du coup, en fait, à cette période-là hivernale, tu commandes un bébé. Quand elles reviennent pendant l'été, et bien à ce moment-là, elles arrivent avec un enfant.
Je prends un exemple. C'est l'exemple de ma mère, par exemple, qui était avec mon père pendant 10 ans. En fait, pour moi, il y a 1000 façons de faire des bébés. Et c'est plus pas faire le bébé au sens biologique du terme, mais c'est comment concevoir et mettre au monde un nouvel être. Après la rupture de mes parents, qui sont restés une dizaine d'années ensemble, ils se sont séparés. Donc ma mère a eu ce désir d'enfant et elle a demandé à mon père, en fait, d'être le géniteur après leur séparation. en lui expliquant qu'elle l'élèverait seule, qu'ils se remettraient pas ensemble, mais qu'il pourrait venir, enfin quand il, enfin voilà, il a aucun souci comme ça, mais c'est un choix de faire un bébé toute seule avec un géniteur extérieur qu'elle connaissait bien, auquel elle a confiance. Et pour moi, c'est une façon de faire les bébés, par exemple. Quoi. J'aurais plus envie de raconter ça plutôt que la mécanique du corps pour faire des bébés.
Donc un jour, tu ouvres ta porte de chez toi, tu vois, à Toulouse ou ailleurs, et tu vois un nourrisson.
Mais peut-être plutôt dire moi comment j'ai fait. Parce que je pense qu'il y a plein de manières de faire des bébés. Mais du coup, moi, j'ai trouvé une personne qui voulait bien me donner des spermatozoïdes. Et du coup... on s'est donné des rendez-vous au moment où moi j'étais en train d'ovuler, c'est-à-dire que c'est le moment où il peut y avoir la rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes. Et du coup, y a un petit moment où la personne qui donne les spermatozoïdes, elle les fait sortir de la manière de son choix, avec le film de son choix.
Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, de, effectivement, des fois... tu le fabriques pas forcément volontairement et tu te retrouves face à un choix de je garde un bébé ou pas. Et après, je pense qu'il y a aussi pour certaines personnes quelque chose d'actif de faire un bébé. Et là, je pense qu'il y aura certaines manières que je sais. Et après, il y a plein d'autres manières de faire des bébés que je connais moins.
Quand cette personne a eu fini, c'était donc à mon tour. D'aller dans une pièce un peu tranquille et là d'aspirer les spermatozoïdes dans une seringue tout à fait classique, voilà, matière qui se trouve dans une tasse, un verre, un bol, ce que vous voulez, un récipient qui n'a pas besoin d'être stérilisé. Voilà. Et après il faut introduire cette seringue à l'intérieur, enfin au plus près du col de l'utérus puisque c'est l'entrée.
Bah si, moi ça me fait penser à tous les gens qui passent par des processus, enfin mes frangins sont passés par là, d'aller dans des hôpitaux en service de PMA et tout ça, et où en fait tu passes par 1000 questions où on interroge ta capacité à avoir un bébé, autant psychologique que financière, que biologique, que tout ça.
Et voilà, après, légende ou pas légende, on peut lever les jambes pendant un quart d'heure, 20 minutes, on ne sait pas trop à quel point c'est scientifique ou pas.
Une jambe
au cas où, voilà. On peut être avec des amis, être seul. On peut le faire de plein de façons différentes. On peut aussi ne pas croiser la personne. Enfin bon, bref. Mais moi, j'ai bien rigolé à chaque fois. Ça, c'est pas comment on fait les bébés, c'est comment on fait comment on fait les fœtus.
Ouais, ouais.
Voilà, comment on aide à faire, parce qu'après il y a aussi tout le hasard. Voilà.
Ok.
Braser au bébé.
Écoute ta radio. Écoute Braser. Tous les lundis soir à 19h. Écoute ta radio. Écoute Brasero, tous les lundis soir à 19h. En 2019, sorte de là, à Soulusé, du Pépito. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Oh oui, Gigi.
Un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est quand? La réponse ne peut être trouvée dans un stade d'évolution biologique du fœtus. Il n'y a pas de moment naturel à partir duquel on peut parler d'un enfant. Si l'on regarde les délais légaux d'avortement dans les pays qui l'autorisent, 14 semaines en France, 28 semaines à Barcelone dans certaines cliniques en payant cher, pas de délai au Québec, il est clair que ces délais correspondent à un arbitrage social propre à chaque pays. Chaque société décide du moment à partir duquel l'avortement n'est plus acceptable et devient donc un acte répréhensible puisqu'il ôte la vie d'un enfant. Le statut de l'enfant, la valeur de sa vie, est une construction sociale. Dans le haut Moyen-Âge, on s'appuyait sur la date d'introduction de l'âme dans le corps du fœtus, qui était de 40 jours pour les garçons et de 80 pour les filles. Aujourd'hui, ce n'est plus l'introduction de l'âme, mais la viabilité du fœtus de plus en plus tôt grâce aux progrès médicaux, qui sert de base à ceux qui veulent créer un statut juridique pour l'embryon. La science se substitue à la religion. Contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire, c'est tout aussi arbitraire. En d'autres temps, ou dans d'autres sociétés, l'enfant n'a pas d'existence pleine, même après la naissance. Dans certaines civilisations, il faut attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour donner un prénom au nouveau-né. Dans d'autres, le bébé n'est plus visible par d'autres personnes que ses parents qu'au bout de plusieurs semaines. Son existence sociale ne démarre ainsi que quelques temps après sa naissance. Chez les Romains, le père avait le droit de vie ou de mort sur ses enfants bien après leur naissance. Or, de ce point de vue, si les luttes des femmes ont permis certaines avancées, contraception, avortement, on assiste dans le même temps à un mouvement de sacralisation de l'enfant à naître qui va de pair avec la place grandissante de l'enfant dans les sociétés occidentales. Les projections sur des enfants aujourd'hui moins nombreux et le plus souvent choisis sont importants et pèsent sur les mères qui les portent et les fabriquent. Elles sont d'ordre individuel mais aussi social. L'enfant rare ne peut décevoir. Il représente un enjeu de survie de l'espèce, mais aussi de reproduction des identités, de sauvegarde du patrimoine culturel. Pourquoi donne-t-on tant d'importance au taux de fécondité des femmes françaises et contrôle-t-on autant l'entrée des enfants venus d'ailleurs? Il est aussi un enjeu économique. Cette place donnée à l'enfant explique le jugement que notre société porte sur l'acte appelé infanticide et sur celles d'entre nous qui y sont contraintes. Un enfant n'existe que quand il y a un projet d'enfant, que quand la femme qui le porte le fait exister comme tel. Donc, dès les premières minutes, si l'on le désire, dans l'espèce humaine, on est d'un acte biologique et d'une reconnaissance. On dit bien concevoir un enfant. Quand on ne veut pas d'un enfant, quand on ne l'attend pas, c'est un problème, une galère, une catastrophe, mais pas un enfant. La femme n'est alors pas mère. Elle ne tue pas un enfant. Elle règle un problème.
Extrait de réflexion autour d'un tabou, l'infanticide, un ouvrage collectif paru aux éditions Cambourakis.
Donc toi, comment tu dis d'abord? Comment est-ce que tu nommes?
De quoi?
Comment est-ce que tu appelles ça?
Ça quoi? Les bébés?
Des bébés?
Oui.
Toujours, tu appelles ça des bébés?
Ben, les enfants.
Les enfants? Ouais. Okay. Tu dis les enfants?
Ouais.
C'est jamais un autre mot?
Les enfants ou les bébés?
D'accord.
Et toi?
Moi, je dis souvent les gosses.
Ah. Moi, je dis souvent le bébé.
Alors, moi, les gosses, j'en ai... Eh ben oui, j'en ai une depuis pas longtemps.
Est-ce que tu en as voulu?
Non, pas encore.
Est-ce que tu en as eu?
Non.
Est-ce que tu en as pas eu?
J'en ai pas eu.
Alors, mais moi, actuellement, je suis enceinte de 8 mois et demi. Donc, il me reste 15 jours. Donc, on peut dire que je suis en train d'en avoir.
Ouais, au moins un, c'est sûr. Et trois, je crois que j'ai pas voulu.
Au moins trois, t'as pas voulu?
Ouais, je crois, ouais.
T'en as eu un.
Ouais.
Que t'as voulu.
Que je, ouais, en tout cas, qui est là, quoi.
Alors moi, j'en ai pas. J'ai pas d'enfants, pas de mioches, pas de kids. Voulu, pas réellement, j'ai l'impression. Ça me travaille, ça me traverse l'esprit, mais ça s'est pas manifesté comme un truc précis.
J'avais ce truc que j'avais gardé hyper longtemps de l'enfance, de me dire j'aurai 4 ou 5 enfants, un truc assez normé aussi, je pense, et en même temps, j'étais assez déter, quoi, d'agrandir la famille comme ça. Et après, il y a eu toute une phase où j'y ai plus pensé. Donc, c'est pas que j'en ai plus voulu ou pas voulu, mais c'était plutôt plus pensé. Ça y est pas dedans, mais...
Alors, du coup, est-ce que toi, du coup, des bébés, des enfants, est-ce que t'en as?
Oui.
Oui.
J'en ai un.
Il y en a pas que t'as pas voulu?
Et il y en a pas que j'ai pas voulu.
Changer d'avis, pas encore. Mais je me dis que ça va venir à un moment, peut-être.
Peut-être que tu peux donner son âge, du coup.
Ouais, elle a 4 mois et demi. Du coup, pour l'instant, pas regretté. Pas changé d'avis. Mais c'est quand même la première fois, je pense, dans ma vie que je fais un choix comme ça, où je me dis, ou putain, c'est irrévocable.
Est-ce que t'en as pas voulu?
J'en ai pas voulu.
Des bébés, genre, que t'aurais pu avoir et que t'en as pas voulu, par exemple?
Non, ça m'est pas arrivé puisque je suis lesbienne et que du coup, comme je ne risque pas de tomber enceinte par la grâce de Sainte Marie, c'est pas possible. J'ai jamais eu ce cas de figure là, quoi. Tu vois?
Ouais.
Du coup, c'est-à-dire que si j'ai un enfant un jour, en fait, ce sera uniquement par choix. Je peux pas tomber enceinte sans le vouloir.
Ouais. T'aurais pu avoir quelqu'un qui t'aurait proposé d'être parente?
Effectivement, ça m'est pas arrivé. Enfin, si, il y a un copain qui m'a proposé, mais c'est pour plus tard. Lui, il est pédé. C'est possible que je le veuille, mais plus tard. T'es mon modèle, Ariel, là. Genre le plus tard possible.
Je n'ai jamais vu aucune pierre. C'est que j'ai perdu mon petit Zorro qui me sauvait la vie. J'ai perdu mon petit Zorro qui me sauvait la vie. C'est triste et je vais me mettre à pleurer. Enfin, je l'ai retrouvé avec sa cape noire, avec tout ce qui lui va. Et je me déguise en Zorro. Cette fois-ci, personne ne me reconnaît. Il croyait que c'est Zorro. Tout le monde se déguise. J'avais le cheval et tout ce qui va avec Zorro. Et en fait, je m'ai déguisé en Zorro. Et en plus, tout le monde s'est déguisé en méchant de Zorro. On faisait la guerre. Zorro m'a pris mon pistolet. Ah, le méchant. La, 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 la.
Et rouge et vaché.
Donc je suis tombée enceinte accidentellement d'un mec qui n'arrivait pas à quitter sa nana. Une histoire vraiment mais pourrie à chier. Quand j'ai eu 33 ans, et j'ai ultra mal vécu mon avortement. Ça me paraissait compliqué, lui n'en voulait pas. Moi je pense que physiquement, j'ai toujours voulu avoir des enfants et même physiologiquement ça a toujours été très fort. Sauf que je le savais pas avant et que ça s'est déclenché vraiment quand je suis tombée enceinte. Et en plus, donc je suis tombée enceinte de lui, j'ai avorté, c'était horrible. Psychologiquement, le moment. Tu portes la serpillière, mais c'est super, ça change l'activité. En fait, c'est de retirer la vie que je sentais en moi, qui a été ultra violente en fait. Ouais. Et en fait, comme je pense, en plus, j'avais pas envie de m'en séparer. Il est très très difficilement sorti de mon corps. Donc en plus, sur le moment, je sentais le médecin et l'infirmière vraiment un peu en panique, tu vois. Donc c'était un peu dur, ouais. Et en fait, il se trouve qu'un an après, Jeff est décédé. Donc ça a un peu tout refait monter, je me suis tout pris dans la tronche. Je pense que je me suis rendu compte que j'avais pas fait le deuil de cet enfant mort. Donc, franchement, je n'arrive pas à le dire autrement, mais c'est comme ça que je le vis. Et du coup, le fait que Jeff meure, ça a été... c'est comme une double mort, tu vois, je sais pas, c'est chelou. Trop bizarre, bref. Voilà, et puis, vie sentimentale un peu pourrie après ça. Et j'ai rencontré donc Léo. Histoire pourrie, pour changer. Et pareil, il y a un soir, on s'est vraiment aimé, je pense, c'était trop bien. Et c'est ce soir justement ça. Je m'en suis rendu compte un soir de fête, en retour de fête. C'est comme si j'en ai bien profité avant. Et après, je vais me coucher, c'était la fin du tournage. Et là, je sens comme une espèce de puits de lumière dans mon ventre. Et je fais, putain, je suis enceinte, ça y est, je le sais, je suis enceinte. Bizarre. J'ai fait un test pour le fun, mais je savais que j'étais enceinte. Tu sais, quand tu le vis une fois, en plus, tu reconnais les symptômes, tu le sens. Donc je lui ai dit, au début, il a plutôt bien réagi, mais je pense qu'il se rendait pas trop compte.
Tu chantes une chanson, Yolande ? Tu connais une chanson ? Tu connais la chanson ?
Ok. La fourmi.
Ma pique et le nez. La coquine, la coquine, la fourmi. Ma pique et le nez.
Ah, ok.
La coquine, elle voulait jouer. La fourmi m'a piqué la joue. La coquine, la fourmi m'a piqué la joue. La coquine, elle voulait un bisou.
Bah, sur le moment, il me dit, ouais, c'est marrant, je m'en doutais. Quand j'étais enceinte, il était assez présent au début. Je pense qu'il s'est dit qu'il avait pas le choix, il savait pas trop comment réagir en fait. Il était sonné. Hein. Je le juge pas parce que je peux comprendre que ça soit difficile. À vivre, tu vois, que tu choisis pas d'avoir un enfant, c'est quand même chelou, hein. Et surtout avec une femme avec qui t'es pas, enfin, tu vois, que t'as pas construit un truc, c'est quand même particulier, quoi.
Est-ce que t'aurais été triste si t'avais pas eu d'enfant?
Je pense, ouais. Je l'aurais pas bien vécu, ouais. Et là, d'ailleurs, la façon dont je suis tombée enceinte, c'était, comme dire un copain, je sais pas si je peux le dire, mais c'est par la volonté du Saint-Foutre. Hein. Genre, c'était improbable, quoi. Totalement improbable.
Merci, madame.
Mais je vous en prie. Oui, mon cœur. Nora, elle t'aide à passer le balai ? Oh, c'est super !
La fourmi m'a piqué la main. La coquine, la coquine. La fourmi m'a piqué la main. La coquine, elle avait faim. L'araignée m'a piqué le nez.
Et en fait, t'as envie d'un deuxième enfant ou
pas ? Oh non. Mais j'ai avoir 40 ans, chérie. Hein. Pardon, je marche pas comme ça. Tu l'as fait. C'est fatigant un moment.
Et l'abeille m'a piqué l'oreille. La coquine, la coquine. Et l'abeille m'a piqué l'oreille. La coquine n'avait pas sommeil.
Pierre a 3 ans. Il apprend qu'il va avoir une petite sœur. En demandant à ses parents comment on fait les bébés, ils lui répondent que pour faire les bébés, une femme et un homme doivent s'aimer très très fort.
À partir de ce jour, il évite d'aimer les filles et d'avoir des relations trop proches avec elles, afin de ne pas avoir d'enfants.
À 5 ans, à l'école, l'instituteur lui apprend qu'il doit mettre une graine dans le ventre des filles pour avoir un enfant. Il tente de planter dans le corps des filles les graines qu'il trouve à la cantine et se fait punir à de nombreuses reprises.
À 8 ans, on lui explique que les petites filles naissent dans les roses, que les garçons naissent dans les choux et que tous les nourrissons sont apportés par des cigognes.
À 12 ans, il regarde la télé et une autre réponse lui parvient.
Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Papa, comment on fait les bébés ?
Eh bien, c'est tout nouveau, c'est une bouteille de lait longue conservation, UHT, elle conserve au lait tout son bon goût, et en plus, elle se revisse. L'essentiel
est... À 15 ans, il découvre le poteau rose. Il apprend qu'après avoir fait des câlins à une femme, elle tombe enceinte.
Depuis ce jour, il fuit les câlins, par peur des conséquences. Il reste avec son groupe d'amis, hommes, et décide d'attendre de se marier avec une femme.
À 20 ans, Pierre s'imagine que c'est en plantant une graine dans un chou, sous une couette, les nuits de pleine lune avec une femme, que l'on peut avoir une progéniture.
Jusqu'au jour où Pierre entend parler de la PMA. Pour la première fois, il entend parler de matériel génétique, de spermatozoïdes et d'ovocytes. Son monde bascule.
Pierre, toi qui nous écoutes, peut-être que le son qui va suivre va pouvoir t'ouvrir encore de nouvelles perspectives.
Bras zéro, bébé.
Vas-y, on va dire, je m'appelle Jocelyn, ça va, vas-y.
Ouais, tu peux choisir un prénom, c'est génial, c'est ça qu'on adore.
Moi, je m'appelle Jocelyn et je me définis comme PD6 et je suis blanc et plutôt de classe moyenne, enfin issu de classe moyenne en tout cas. Et je fréquente les milieux trans-pédéguines. Pour me situer, je pense que j'irai un peu ça. Politisation qui est quand même assez récente dans ma vie, mais pour l'instant je reste assez proche de cette idée que l'hétérosexualité c'est pas une orientation sexuelle, mais qu'en fait c'est un système d'organisation patriarcale, notamment d'appropriation du travail ménager des femmes, et que c'est une orientation sexuelle qui masque en réalité un privilège qui est particulièrement visible quand on essaye de faire de la reproduction hors d'un couple hétérosexuel, que ce soit aussi autant une mère célibataire qu'un couple de femmes, que 5 personnes qui voudraient un projet de coparentalité. Et pour moi, une des façons d'attaquer cette hétérosexualité obligatoire, c'est de rendre la reproduction accessible en dehors de ce modèle-là.
Curieuse de savoir comment cette question, toi, ou en tout cas ce truc-là, il est arrivé dans ta vie et dans tes réflexions.
Je pense que ça est arrivé de façon très lointaine en 2013, au moment du passage de la loi du mariage pour tous, qui était censée être accompagnée de la loi pour la PMA pour les femmes en couple et les femmes célibataires. Et du coup, là, c'était assez lointain, je me sentais pas du tout concerné par ces enjeux-là, mais un peu un truc de... juste que ça existe dans ma tête, quoi. Et quelques années plus tard, j'ai rejoint un centre LGBT qui était en vrai dans un département qui était très très rural, et qui était du coup une très petite asso LGBT qui était presque exclusivement composée de lesbiennes. Et là, du coup, ça a fait que ce truc de la PMA, il était resté beaucoup en travers de la gorge de beaucoup de ces lesbiennes-là qui, en fait, s'en fichaient du mariage entre personnes du même sexe, qui finalement change très peu de choses pour la plupart des gens, quoi. Et du coup, un peu un truc de, je sais pas, désillusion ou de vraiment déception... par rapport au projet de parentalité entre femmes. Et dans cet assaut-là, justement, j'ai sympathisé avec un couple de meufs qui faisait un peu des blagues, tu vois, sur les dons de sperme, ou parfois j'étais inclus dedans, mais vraiment sur le ton de la rigolade. Enfin, c'était des blagues, tu vois, mais quand même, je me disais, ah, il y a Anguille Souroche et tout. Alors, je sais pas si j'ai vraiment beaucoup réfléchi, mais à un moment, à l'occasion d'une blague, je leur ai dit texto, en fait, je sais pas si vous blaguez ou pas, mais du sperme, moi j'en ai, j'utilise pas tout, alors si vous voulez, y aurait moyen que je vous en passe, quoi. Et je pense qu'elles s'y attendaient pas tellement, mais qu'en fait, c'était un vrai projet qu'elles avaient de devenir parents. Et du coup, elles m'ont dit, ah bah c'est super et tout, on va en reparler et tout. Et après, on s'est revus pour parler de ça. Et en fait, là, elles m'ont expliqué que c'était déjà un projet qui datait un petit peu, qu'elles avaient demandé à... Enfin, au moins, je me souviens plus, mais au moins un pote à elles de leur faire un don. de sperme, qui dans un premier temps leur a dit oui, sans trop réfléchir, qui après en a parlé avec sa copine, et après coup leur a dit « Non mais en fait je trouve ça contre nature, moi ça me le fait pas du tout quoi. » Et là, enfin à ce moment-là, j'ai un peu mesuré l'ampleur de c'est quoi, enfin, je sais pas comment dire, soit de la masculinité, soit du rapport à la progéniture ou la parent, enfin la paternité ou je sais pas trop. Et voilà. Enfin, du coup, vous savez qu'on a eu recours à ce qu'on pourrait appeler une procréation artisanale. Une insémination artisanale, je pense que c'est ça qu'on utilisait comme terme, mais je sais pas s'il y a des termes plus officiels ou je sais pas trop. Du coup, moi je suis plus au courant de comment ça se passe du côté du donneur plus que de comment ça se passe du côté des receveuses, quoi. Mais on s'est retrouvé du coup à la période de fertilité de celle qui voulait porter l'enfant, et on a fait deux essais, enfin deux dons, du coup sans rapport sexuel, et ça a marché du premier coup. Du coup, c'est une expérience qui s'est quand même assez chouette, où ça faisait un truc très facile et tout. Et forcément, ça nous a un peu posé des questions sur... comme on était amis, quelle place j'occuperais dans la vie de cet enfant qui est né maintenant, et tout ça. Et du coup, avec un truc qui était une demande, bah, plus de ce couple-là envers moi, de juste que je prenne pas de place dans l'éducation de l'enfant, mais qui, en fait, était pas du tout ce que je recherchais, et... Et qu'en fait, je pense que j'aurais pas accepté de faire un don si, en fait, il aurait fallu que j'occupe un rôle parental dans cette histoire. Mais avec un truc, du coup, qui fait que je croise cet enfant et que... Enfin, je sais pas trop ce qu'elle... Enfin, je sais pas, elle, c'est quoi leur rapport à ça, mais probablement que cet enfant, ce sera jamais une découverte que je suis son géniteur, quelque chose comme ça, j'imagine. J'imagine, mais je sais pas. Voilà.
Et toi, ça t'apporte quoi, en fait ?
Ben... Je sais pas ce que ça m'apporte. J'essaye que ça m'apporte le moins possible, en tout cas. Enfin, en fait, j'essaye vraiment de rester en dehors de cette histoire en me disant qu'en fait, ça me concerne pas et que je suis pas en train d'aider qui que ce soit à faire des enfants, qu'en fait... Enfin, j'ai... Comment dire ? Que je suis pas indispensable, que je suis pas un parent, que juste c'est du sperme, que au lieu d'atterrir dans un mouchoir, il atterrit dans un gobelet, et voilà quoi. Et du coup, j'essaye d'en parler le moins possible, mais ce qu'en vrai, ce qui est plus facile ou moins à tenir, que je me méfie de ce truc d'être héroïsé, de genre... Ah, il est trop sympa, il permet à un couple d'avoir des enfants, alors qu'en vrai, je ne permets rien du tout, et que en fait, ce mérite, il revient juste aux gens qui deviennent parents. Et après, ça me fait plaisir de savoir que il y a des personnes qui puissent devenir parents, et je pense que j'en tire peut-être une satisfaction un peu politique, de dire, ah, ça se passe, mais j'essaie que ce soit le plus indépendant possible de moi. Voilà. Et c'est en fait à partir de cette expérience-là, où j'ai trouvé ça du coup très facile de faire des enfants en dehors du cadre hétérosexuel, que je me suis dit, que j'ai commencé un peu à m'interroger sur en fait la pertinence de demander la PMA de façon... comme en tant qu'institution médicale et encadrée par l'État, parce que déjà je questionnais beaucoup la pertinence de réclamer le mariage pour tous, qui pour moi jouait vraiment un rôle de normalisation et d'intégration dans l'identité nationale française ou la République, ou je sais pas trop. Et du coup ça a commencé à m'interroger, et j'ai pas de position anti-PMA ou quoi que ce soit, au contraire, mais plutôt, je trouve ça un peu regrettable que les débats ils soient autant orientés vers réclamer la PMA que plutôt comme décriminaliser les dons de sperme, qui sont potentiellement répréhensible, même si je pense que c'est très peu applicable dans les faits, quoi. Et surtout, diminuer les possibilités de reconnaissance de paternité venant du donneur, quoi. Parce qu'en fait, dans le contexte actuel, ce qui est hyper problématique dans les dons artisanaux, c'est que si le donneur veut reconnaître la paternité de l'enfant, il y a a priori zéro moyen pour l'en empêcher, quoi. Zéro moyen légaux. Ce qui est réellement problématique, quoi. En fait, je crois que c'est aussi un truc, j'ai été hyper écœuré par la Manif pour tous, qui est en fait un mouvement politique de défense de l'hétérosexualité obligatoire qui s'est manifesté pendant la Manif pour tous, mais qui s'est aussi manifesté plus récemment pendant les débats bioéthiques sur la PMA, qui s'était manifesté avant avec le PACS, qui a priori était pas mal issu des luttes anti-IVG, enfin qui est en fait un mouvement politique qui, mine de rien, a été très conséquent en nombre de personnes, en manifestations et en production, je sais pas, d'idéologie ou j'en sais rien, et qui est en fait hyper hostile à perdre un privilège qui... Enfin, a priori, on se dit, mais qu'est-ce que ces gens à y perdre que des gens pas hétéros fassent des enfants ? Moi, je trouve ça ouf et peu compréhensible à quel point ils sont attachés à ce privilège-là, que je comprends mal. Et un truc de droit à la parentalité, de se dire... En fait, les hétéros n'ont pas un droit à la parentalité. En fait, ils font des enfants de fait parce qu'ils en font, quoi. Et du coup... Là, ça posait la question de qui a le droit ou pas de faire des enfants. Est-ce que la parentalité, c'est un droit ? Et en fait, moi, je pense vraiment que ça doit pas du tout être un droit, la parentalité, et que c'est quelque chose qui arrive, en fait. Et qu'en fait, si c'est compliqué aujourd'hui pour des couples de femmes de faire des enfants, c'est pas parce que techniquement c'est compliqué, parce qu'en fait, techniquement, c'est extrêmement simple. C'est parce qu'en fait, les lois protègent tellement l'hétérosexualité que c'est difficile de sortir de ces clous-là, quoi.
Quelques clics, elle crame ta paternité.
Bien sûr, c'est la fin de ton humanité. Sans déconner, vous nous avez saccagé.
Faire des gosses en baisant, ça faut l'inceste, c'est dégoûtant. Mon crachat, il est épais, je rate ma gorge, je sais viser. Tu me cherches, tu me trouves, je punchline sans trouille.
Je crache, je touche d'une pierre, deux couilles.
Pas, tu peux pas, tu supportes pas que ça se passe sans toi. La gestation pour autrui, ça change la gestation pour abruti. On produit pas gratuitement pour un crétin qui trouve ça chiant. T'as pas les outils de production,
on se lance dans la fabrication sans autorisation, on se la fait maison.
Tu veux un scoop, bouffon, du sperme y'en a partout. Suffit de faire la récup, c'est tout.
Je crois pas à l'égalité des droits. Je veux juste aligner des droites. Ça fait des siècles qu'on se démerde, qu'on prend ce qu'on veut et qu'on t'emmerde.
On parle à la morale,
Après l'effondrement du capital, après l'abolition du travail, en attendant on se fait de la maille, en vendant des bébés à des quais blindés. Revendication syndicale, compensation minimale pour des années d'enflage, d'inégalité salariale.
Eh, Popol, reste pépère.
On sait que c'est pas comme ça que t'aimes qu'on prenne cher. Bravo pour ton condescendant, tu tiens bien ton rôle d'anarchiste méprisant. Mais
ferme ta gueule mon grand, maximum à 50 ans, t'achètes un appartement avec l'héritage de tes parents. Génération d'enfants nés.
Attends, je me mets un doigt dans l'œil pour chialer.
Vous les hétéros, c'est vrai, au printemps vous vous accouplez, 9 mois après vous mettez bas dans la forêt. Aucun contrôle médical, aucune organisation sociale, l'harmonie est totale. Pas de problème de classe, naturellement, tout le monde est à sa place.
Sérieux, t'es nostalgique d'un lâchage de purée de ton père, d'une éjac au fond de ta mère, t'es fier de cette famille nucléaire.
Nous on se marre, on fait le poirier, on boit le thé entre potes après s'être branlé dans un gobelet. La boucle est bouclée, c'est insensé, on veut pas connaître ta position sur l'IVG.
Je vais te faire bouffer mon patrimoine génétique, comme tous les mois il a fini au fond de ma serviette hygiénique. Vouloir que les couleurs soient stériles, ça c'est de l'eugénisme. Dire que t'es fini à la pisse, ça c'est un euphémisme.
C'est un euphémisme.
On attend avec impatience ton développement sur l'adoption, les rapports nord-sud, tes solutions, tes injonctions. Vu ta finesse d'analyse sur les rapports de domination, ça nous fera une source d'inspiration pour une future chanson.
Rien pour ça, à ton père on dit merci, pas avoir fait de vasectomie. Allez, on a assez joué à c'est le premier qui dit qui est. Collabo, libéral, libertaire, versus hétérocrate autoritaire. Laisse-moi gaulerie, on sait dans quelle bibliographie nazi ton bouquin a fini. On est contre l'humanité, on fera pas l'effort en premier, on arrêtera de s'inséminer quand vous arrêterez de coïter.